Amis auditrices, amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans l'Agora. Aujourd'hui, Radio Galère propose une journée spéciale à propos des violences policières, des violences d'État. Mon invité est Mathieu Rigouste. Mathieu Rigouste est docteur en sciences sociales. Il a passé près de 30 ans en banlieue parisienne. Il est engagé depuis longtemps dans différents mouvements de lutte confrontés à la violence policière. Il est l'auteur de nombreux livres, et notamment « L'ennemi intérieur »,« Les marchands de peur », »,« Le théorème de l'Augra »,« Un seul héros, le peuple »,« La domination policière »,« Mater la meute », et aussi de films documentaires, notamment « L'enferrochement policier » et « Des quartiers populaires jusqu'au Covid ». Bonjour Mathieu Rigouste.
Bonjour.
L'État, depuis longtemps, a souhaité sécuriser les villes avec l'éclairage mis en œuvre dans les espaces publics, à l'intérieur et à l'extérieur des villes, et grand ordonnateur de la transformation de Paris sous le Second Empire, le Haussmann n'avait pas seulement pour ambition d'embellir et d'assainir la capitale, préfet de la Seine, il voulait aussi, en dessinant ses grands axes, briser les foyers de la contestation ouvrière et prévenir d'éventuels soulèvements populaires tels qu'en 1830 et 1848. Ce détour au XIXe siècle montre que les enjeux de sécurité dans les aménagements urbains ne sont pas nouveaux. Alors, aujourd'hui, c'est quoi la police ?
La police, c'est une institution, c'est un appareil d'État. On pourrait dire que c'est un champ aussi, dans le sens où il y a des, à l'intérieur, c'est pas homogène, enfin, il y a des luttes à l'intérieur, il y a des contradictions. Moi, je l'aborde principalement comme un appareil au service des classes dominantes, au service de l'État, pour distribuer la violence dont les classes dominantes considèrent qu'elles ont besoin pour maintenir l'ordre social. Elles disent l'ordre public, ça ne veut pas dire grand-chose. Un ordre social inégalitaire. Donc voilà, c'est un appareil qui distribue de la coercition, mais aussi qui est chargé de surveillance, qui est chargé de produire de l'autocontrôle. Voilà, et c'est pas le seul appareil hein, chargé de distribuer de la violence pour maintenir l'ordre, mais c'est quand même un des piliers de la reproduction de l'État et de la défense des classes dominantes.
La défenseure des droits vient de publier l'étude intitulée « Désescalade de la violence et gestion des foules protestataires ». Cette étude examine notamment le maintien de l'ordre en France au cours des dernières 10 décennies, ainsi que l'agenda européen de la désescalade de la violence en contexte manifestant. Comment le pouvoir tente-t-il de rétablir un ordre social en crise ?
Oui, ça c'est intéressant, ça, parce que ça nous montre que justement un régime de pouvoir fait tout ce qu'il peut pour maintenir l'ordre, et il y a différentes configurations, différents agencements entre l'usage de la force et l'usage de l'idéologie, du divertissement, de la légitimité, de l'hégémonie, et qui fait que on a des configurations différentes, par exemple en Angleterre, en Allemagne ou en France, avec en France du coup une concentration effectivement sur des méthodes policières très offensives et très féroces. Mais ça ne veut pas dire qu'en Allemagne et en Angleterre, par exemple, il n'y aurait pas d'usage de la férocité, et notamment dans les mêmes domaines, hein, parce que si on regarde le fonctionnement de la police dans les quartiers pauvres et sur les corps des prolétaires non blancs, des classes les plus pauvres, en Angleterre et en Allemagne, la police utilise aussi la coercition, la férocité et la mise à mort. Et quand on regarde, par exemple, quand les polices allemandes et britanniques sont confrontées à des révoltes sociales offensives, elles utilisent aussi des schémas contre-insurrectionnels très brutaux et qui correspondent là aussi à ce que fait la France. Ce rapport, comme toute une partie de la sociologie policière, disons de gauche, qui tente de faire croire que ce serait une solution la désescalade, en fait, ça vient juste nous montrer que c'est un régime parmi d'autres, et les États en général, s'ils peuvent obtenir des formes de pacification sociale, des formes, s'ils peuvent maintenir l'ordre sans utiliser la violence, c'est simplement parce que les gens ne se révoltent pas ou qui n'ont pas la possibilité de se révolter, les États préfèrent. Et finalement, la désescalade, c'est ça l'enjeu. C'est obtenir de la pacification sociale, c'est obtenir de l'ordre sans même avoir besoin de matraquer, mais le fond de tout ça est le même que la police, que la férocité policière. Le but de tout ça, c'est que c'est la reproduction d'une société inégalitaire et que rien ne change. Il faut bien se redire ça, hein. À chaque fois qu'on entend des que ce soit des sociologues ou des journalistes nous parler de la désescalade comme si c'était quelque chose de formidable. Enfin, le but de la désescalade, c'est d'empêcher tout changement social, hein. C'est qu'une manifestation soit absolument inoffensive et donc qu'elle ne puisse pas gêner le gouvernement dans son fonctionnement.
Toujours l'étude publiée par la Défenseure des droits constate une distance persistante entre les conceptions françaises du maintien de l'ordre et celles promues notamment en Europe du Nord. Elle indique « La violence policière n'a rien d'accidentel, elle est rationnellement produite et régulée par le dispositif étatique. » Alors, comment la police en France organise-t-elle ses activités et plus précisément ses activités de maintien de l'ordre?
Bah, il y a différentes mécaniques de fonctionnement de la police et de sa transformation. Bah, il y a des mécaniques qui vont du haut vers le bas, hein, c'est les principales d'ailleurs. Donc il y a des buts, des états-majors, des hiérarchies avec des doctrines et des conceptions de la société. Ou en général des conceptions calquées sur le modèle bourgeois néoclassique et celui de Hobbes où la société serait un corps et tout ce qui viendrait troubler l'ordre serait assimilable à une sorte de virus et du coup l'armée, la police seraient des sortes de chirurgiens du corps national qui seraient très rationnels, très éthiques et puis surtout qui lorsqu'ils en viendraient à amputer la manière dont ils traiteraient le corps serait de toute façon absolument nécessaire. Il n'y aurait pas d'autre moyen que celui-là. Et donc, ces schémas-là, ces doctrines, ces idéologies sont traduits à différents étages jusque vers les moyens chefs, puis vers les petits chefs, puis vers les exécutants de la police, toujours avec des appropriations et puis c'est jamais mis en pratique exactement comme c'est fantasmé ou conçu par les strates supérieures. Il y a toujours des formes de, du coup, la sociologie d'insularité, on pourrait dire d'autonomie, mais bon, on va pas leur laisser ce mot-là. En tout cas, il y a des marges de manœuvre aux différents étages. Et puis, donc, les pratiques des agents de police sur le terrain sont organisées, administrées, encadrées en amont et a posteriori par des hiérarchies. Et ça, il faut vraiment toujours se le rappeler. Enfin, et on le voit très précisément quand on travaille justement sur la police. La police, elle est jamais en roue libre. On l'entend souvent là, de plus en plus. Ces formes policières dont on a l'impression qu'elles sont en roue libre, en fait, elles ont certaines formes justement d'insularité, de marge de manœuvre, mais ces marges de manœuvre leur sont concédées. Quand une préfecture envoie des bacs sur un cortège ou sur un quartier, ou quand elle envoie des braves M, etc., elle sait exactement que c'est justement des dispositifs policiers qui ont des grandes marges de manœuvre, qui sont féroces, qui sont proactifs, c'est-à-dire qui créent leurs propres affaires. C'est maîtrisé. Après, voilà, c'est pas maîtrisé extrêmement précisément sur exactement ce que va faire chaque policier, mais en tout cas le cadre est maîtrisé. Et puis, il y a une logique, on pourrait dire réciproque et parallèle, qui va du bas vers le haut. Où en gros, les policiers aussi sont créatifs sur le terrain, vu qu'on leur laisse des marges de manœuvre assez larges. Ils produisent des techniques, ils ont des idées, ils mettent des choses en pratique, et puis ils font pression sur leur hiérarchie pour les faire valider ces techniques, pour les généraliser, pour aussi exiger plus d'armement, des meilleurs moyens, des meilleurs salaires, et puis un cadre juridique qui leur laisse une utilisation complètement libre de la férocité. Ils veulent toujours avoir la possibilité de pouvoir violenter et tuer sans être jamais mis en cause par l'institution judiciaire. Voilà, cette dynamique-là remonte notamment par les syndicats policiers jusque dans les états-majors et jusqu'au gouvernement. Et du coup, il peut y avoir des conflictualités, mais en général, il y a plutôt une sorte de collaboration structurelle entre tous les étages de la police et de l'État.
Personne à le remettre de la mort. Personne ne le remettre de la mort. Mais pour l'instant, ces policiers-là, ils sont tranquilles. Eux, ils rentrent chez eux. Ils voient leurs femmes et leurs enfants. Les policiers continuent dans nos quartiers, ils nous insultent. Ils essayent de nous pousser à qu'on fasse des outrages. Mais on a compris ça, on leur donne plus le temps. La police aujourd'hui se permet de tuer.
Ce samedi 4 novembre, rendez-vous à 16h au Vieux-Port pour une manifestation en hommage à Zineb Redouane, 3 ans après sa mort. Et dès 14h, sur les ondes de Radio Galère et Ayoli Radio à Avignon, pour un après-midi spécial sur le thème des violences policières, des violences d'État, et en hommage à Zineb et Souheil. C'est samedi à partir de 14h sur les ondes de Radio Galère. Toujours à l'écoute de Radio Galère dans cette émission spéciale jusqu'à 18h, voire peut-être 18h30. Et là, on écoutait à l'instant l'interview de Mathieu Rigouste, qui est docteur en sciences sociales, sur les sujets des violences policières et des violences d'État. La prochaine partie de cette interview, préparée par l'Agora, que vous retrouvez tous les mardis. Alors j'ai trouvé l'information, mais du coup je l'ai reperdu depuis, alors je vais essayer d'ouvrir mon ordi pour vous le dire. L'Agora, c'est une émission sur Radio Galère qui est le prolongement et le complément des activités proposées par l'Université Populaire de Marseille Métropole, l'UPOP. Et donc leur émission a lieu sur Radio Galère tous les mardis de 18h à 19h. Une interview spéciale donc de Mathieu Rigouste, dont on entendra la deuxième partie d'ici quelques minutes. Deuxième partie à propos du néocolonialisme policier, de la ségrégation policière dans les quartiers et de la situation aujourd'hui en Guadeloupe et de ce qu'elle a de néocolonial. On s'écoute une petite zic et on revient tout de suite à l'écoute de ces 4 heures de radio contre les violences policières.
Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Donde no hay poder, hay vida. Me sacó el pasaporte, me llevó un cuarto aparte. Preguntó qué hacía, dije que era cantante. Me pidió que demuestre, quería que cante. Abrí grande la boca, mostrando los dientes. Me exigió que respete, dijo calabozo. Y en una libreta escribía mi nombre. Me dijo, usted parece prototipo de puta. Sudamericanas paradas en la ruta. Mientras tanto en mi casa hay fiesta de disfraces. Baila sentada, la muerte a la mesa. La tierra nos traga, no se desaparece. Nadie nace 13. Se hace que matan cuando nos matan con precintos que atan. Que fake esta mentira y este show que nos montan. Tengo tantos muertos a mi alrededor que no sé
no mira el hambre que se reparte. Ahora más tarde y todos los días, del otro lado de las orillas, la tele cuenta cómo es la movida. El vecino decidiendo que vale mejor que vaya y que me mantenga por vos. Mendoza, La Plata o Constitución, más tecnología hacia el mundo mejor. Más que te entre más miedo y control, patrulla tu vida para tu confort. Que sigo operando por las autopistas. El más mataguacho te tiene en la mira. Mide tus costillas, te ponen cuclillas. Como la ficción en tu cara gatilla. Que caiga la lluvia sobre la casa, que esté más lejos. Que se derrame esta peste, glifosato desde el techo. Solamente encima de todas las villas. Te saluda el mundo de choque profundo.
Lacrimógena batalla, piedrazos a los cascos. Primero me da pena, después me da asco. Te llenamos la plaza, bajamos en Pasco. Limón y agua en contra de este fiasco.
Oh, qué placer ver a las fuerzas superiores retroceder, retroceder, avanzar siendo millones.
Toujours la même étude indique la théorie et les pratiques de la police française sont profondément enracinées dans le système colonial. Les brigades nord-africaines dans les bidonvilles de l'entre-deux-guerres et les brigades anti-criminalité, les BAC dans les cités actuelles, une même mécanique se reproduit en restructurant. Il s'agit toujours de maintenir l'ordre chez les colonisés de l'intérieur, de contenir les territoires du socio-apartheid. Et vous y consacrez un chapitre dans votre livre. Alors, comment la société française repose encore sur une colonialité structurelle?
Bah, je dirais, on s'est pas mal intéressé et ça a polémiqué beaucoup sur le post-colonial, sur ce qui persisterait de traces de la colonisation. Alors, c'est intéressant et c'est vrai, il faut le réaffirmer. Mais ça ne doit pas cacher le fait qu'il n'y a pas juste des traces de choses qui traîneraient là encore parce qu'on les aurait pas nettoyées. En fait, la société capitaliste, impérialiste, patriarcale est aussi une société coloniale, est aussi une société raciale, raciste, et depuis l'origine, c'est-à-dire que le capitalisme, la collaboration du capitalisme et de l'État-nation. Se constitue notamment à travers l'esclavage et à travers la grande ville bourgeoise. Toute cette histoire-là est absolument indissociable de toute l'histoire de la colonisation. Et en fait, jusqu'à aujourd'hui, il y a des réagencements, c'est-à-dire on n'est plus dans la forme impériale qui pouvait être encore en place au début des années 50, mais on est toujours dans une forme impériale avec donc du post-colonial, du néo-colonial, si on regarde par exemple l'occupation militaire du Sahel, ou en tout cas tout ce qu'on appelle la France-Afrique, c'est-à-dire des modes de gestion rénovés du colonialisme, où, bon, on va pas rentrer dans ces détails-là, mais en tout cas ça c'est complètement central dans le système économique et politique contemporain. Il y a du colonial aussi, très clairement, les Outre-mer sont des colonies, la Guyane, la Kanaky, la Guadeloupe, la Martinique, etc., sont des territoires colonisés, même si dans le droit français, ils sont plus considérés comme des colonies. En fait, dans le fonctionnement quotidien du pouvoir, de l'économie et des classes dominantes, en fait, on est très clairement encore dans une société hiérarchisée par le racisme et par la ségrégation et par une domination à la fois de classe et de race. Et à côté de tout ça, il y a aussi ce que j'appelle de l'endocolonial, c'est-à-dire le fait que dans la gestion des territoires pauvres et des classes populaires, il y a différents régimes, et notamment la gestion des quartiers populaires. C'est pas juste une gestion des misérables, c'est une gestion des pauvres combinée avec des pratiques d'ordre raciste, de ségrégation, je dis socio-raciste et de, je parle de socio-apartheid. Alors le socio, il est là pour dire que on n'est pas dans des formes d'apartheid complètement militarisées comme on pourrait avoir en Palestine occupée ou comme on avait en Afrique du Sud, mais dans des formes justement qui sont à la fois structuré socialement, c'est-à-dire par la possibilité qu'on a à travers nos réseaux, nos moyens, etc., de circuler ou pas, mais aussi à travers le fonctionnement de la police, à travers le fonctionnement des institutions. Encore une fois, il n'y a pas de loi qui dit on va ségréguer les quartiers populaires et mettre en place une forme de domination raciste particulière à leur encontre. Par contre, il y a à la fois un tissu de loi et toute une combinaison de fonctionnements institutionnels qui eux participent explicitement à ça et qui l'assument même stratégiquement. La politique de la ville est très clairement une politique de ségrégation socio-raciale. Voilà, du coup, j'ai l'impression que c'est un peu dans tous les domaines de la société française qu'il y a du colonial et au sens d'inégalité, de discrimination raciale, mais aussi au sens de méthode de gouvernement, ou par exemple d'utiliser les pratiques de punition collective, en tout cas de considérer que si l'un a fait quelque chose, l'ensemble doit payer, ou dans l'idée d'utiliser une partie des dominés pour contrôler le reste de leur groupe, etc. Enfin, on a toute une série de régimes de gouvernement, mais qui tirent vers le commandement, en fait, qui repose sur l'idée de considérer la population gouvernée comme étant à la limite de l'humanité, c'est-à-dire on peut l'écraser en permanence et voir la mettre à mort quand on veut.
Toujours l'étude publiée par le défenseur des droits indique une vision dichotomique forte du maintien de l'ordre, de l'ordre prédomine. Gestion très à distance des événements que l'on tient pour pacifiques, gestion très réactive, voire brutale, des événements que l'on tient pour susceptibles d'engendrer des désordres. Dichotomie beaucoup plus tranchée qu'il y a une vingtaine d'années entre manifestations pacifiques et désordre. Le contraste avec les leçons que les pays du réseau Goudiak ou la Belgique ont tirées des épisodes altermondialistes du début des années 2000 qui ont renforcé un modèle de police fondé sur la recherche d'un style de police consensualiste reste notable. À ce jour, il n'y a pas de véritable rencontre entre les agendas européens et français, même si les acteurs français regardent avec intérêt ce qui se fait chez leurs voisins en matière de maintien de l'ordre. Alors, c'est quoi la tactique de la tension à laquelle vous consacrez un chapitre?
La tactique de l'attention, du coup, c'est justement une manière de nommer ces régimes de contre-insurrection dans le domaine policier. C'est-à-dire, pour prendre une image qui consiste en, mais comme ça a pu être fait dans un certain nombre de situations coloniales et comme c'est fait dans un certain nombre de quartiers, en fait, de tenir toute une population en l'enfermant, en la nassant, mais en la nassant au quotidien par des systèmes policiers, mais aussi par des caméras, et puis aussi par une certaine forme d'obsession des institutions pour y débusquer le crime, le communautarisme, etc. Et du coup, en même temps qu'on étrangle, utiliser des méthodes d'intervention à l'intérieur qui sont de l'ordre du choc. C'est-à-dire, par exemple, pour le domaine policier, ça veut dire entourer des quartiers avec des CRS ou des gardes mobiles et puis envoyer des bacs à l'intérieur, c'est-à-dire pour aller faire du saut dessus, pour aller se saisir, capturer des proies, comme ils le conçoivent. Et c'est-à-dire à la fois étrangler et frapper les corps, ou le corps social en général, c'est-à-dire en fait des machineries qui ne peuvent que produire de la révolte, en fait, parce que personne ne se laisse agresser, écraser et étouffer sans réagir. Et du coup, on a cette logique-là dans la contre-insurrection, dans sa forme coloniale et militaire, et on la retrouve, cette logique de tension, dans les formes médiatiques et policières. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que il s'agit pas de produire des désordres ingérables. Il s'agit pas les gestionnaires de tout ça arrêteraient tout de suite si ça produisait des choses qu'ils recherchent pas. L'idée c'est que ça puisse produire des formes de désordre qui soient eux-mêmes réintégrés directement dans la machinerie. Parce que dans les médias, on va pouvoir dire, regardez, ce quartier est irrécupérable, ces gens-là, on peut rien faire avec eux, ils connaissent que la force, etc. Et puis, justifier la rénovation du quartier, justifier l'investissement dans des armements, dans des matériels, et puis et la montée en puissance de réseaux politiques d'extrême droite, par exemple, en tout cas ancrés sur les questions identitaires. C'est un petit peu tout ça, et effectivement, c'est une logique forte dans l'histoire de la police et du maintien de l'ordre en France. Après, il faudrait pas cacher le défenseur des droits, forcément, il est dans son rôle là-dedans, en essayant de proposer une sorte de police qui serait, comme on entend généralement, plus républicaine, etc. Et sachant que c'est la police très républicaine qui a toujours écrasé les mouvements ouvriers, les révoltes anticoloniales, etc. Mais la France, en fait, participe elle aussi complètement à la production d'une sorte de police soft, par exemple, en termes de ce qu'on appelle la police de proximité, qui sont des polices d'occupation du territoire, de surveillance, de renseignement au quotidien. Ça fait partie du patrimoine français dans le domaine, que d'autres pays regardent très précisément. Et puis sur tout un tas d'autres secteurs, en fait, la France est très bien intégrée dans le reste du concert des nations européennes sur le domaine. Si on regarde la gestion des grands événements, Jeux olympiques, G20, G7, etc. Là, on voit très bien que toutes les polices du monde impérialiste collaborent ensemble à des régimes de surveillance, de contrôle et de répression qui fonctionne de manière complètement combinée, quoi.
Une enquête fondée sur l'observation des techniques et des pratiques d'encadrement et de ségrégation depuis ceux qui les subissent et les combattent montre comment le pouvoir policier assure la reproduction des dominations capitalistes, racistes et patriarcales dans la France contemporaine. C'est quoi l'industrialisation de la férocité, l'enférocement policier?
C'est un petit peu ce qu'on se raconte depuis tout à l'heure, c'est cette dynamique, d'élargissement des formes de pouvoir utilisées dans le champ colonial. C'est-à-dire à toutes les époques, en situation coloniale, le pouvoir s'autorise à utiliser des formes de guerre dans la population, s'autorise à punir collectivement, s'autorise à enfermer massivement, à écraser les corps, à les mutiler et à mettre à mort. Et cette logique-là, dans l'ère sécuritaire, dans le post-68, a tendance à être élargie aux classes populaires en général, en particulier aux classes populaires qui jouent pas le jeu de la pacification sociale, quoi, aux classes populaires qui luttent, qui résistent et qui contre-attaquent. Il s'agit d'essayer de voir un petit peu les dynamiques qui mettent en lien les différentes classes exploitées, dominées, opprimées, tout en se rappelant que les régimes d'exploitation et les régimes de domination sont pas forcément les mêmes. On n'est pas exploité, on n'est pas dominé, on n'est pas surveillé, on n'est pas réprimé de la même manière dans un quartier populaire. Si on est un ouvrier blanc ou non blanc, si on manifeste en centre-ville ou dans les outre-mer, donc il s'agit bien de dire que c'est pas les mêmes régimes. Par contre, ces régimes sont complètement liés, ils sont combinés entre eux, ils échangent des technologies de pouvoir et de savoir. Il y a des transferts de matériel, d'idées, d'agents, de réseaux, de réseaux politiques et de réseaux policiers entre ces différents champs de domination.
Pour coller à l'actualité, il y a eu une nouvelle réaction du gouvernement en Guadeloupe. Sébastien Lecornu annonce l'envoi de 70 gendarmes et 10 membres du GIGN supplémentaires pour mettre fin aux manifestations et à la révolte qui est installé depuis plusieurs jours dans ce département.
Oui, bah ça s'inscrit dans les logiques dont on parle depuis tout à l'heure, dans ces logiques historiques du capitalisme et colonial et sécuritaire, c'est-à-dire que les outre-mer sont gérés de manière coloniale, c'est-à-dire qu'on s'y autorise à gérer les classes populaires sur le mode de l'écrasement et puis à passer sur le mode de la guerre, hein. Les forces de gendarmerie qu'on envoie, c'est des militaires. Et comme par exemple en mai 67, c'était des forces de gendarmerie qui avaient été envoyées pour réprimer les révoltes et qui se sont livrées à un véritable massacre. Donc le fait d'employer des forces militaires ou policières et des formes de guerre dans la population, c'est quelque chose qui est assez régulier du point de vue du pouvoir dans les colonies. Et puis bah ça s'inscrit aussi dans une espèce de manière toujours plus présente qui est liée au phénomène sécuritaire de tout gérer sous l'ordre de la surveillance, du contrôle, de la répression, plutôt que d'investir dans des services publics, etc. Et donc là, on voit la manière de gérer la révolte, bah, c'est d'envoyer la répression. Et d'ailleurs, ça résonne aussi avec ce qui vient de se passer, encore drame dans la Manche, de mort de personnes exilées qui tentaient de traverser, et où le ministère de l'Intérieur tente de faire croire qu'il a aucune responsabilité de là-dedans et que c'est la responsabilité des passeurs, enfin ce qu'il appelle les passeurs, etc. En fait, ils viennent encore une fois là d'annoncer la multiplication de dispositifs policiers à différents endroits conçus comme étant des endroits de passage, en tout cas une montée en puissance encore une fois de la domination policière contre les personnes exilées. Tout ça s'inscrit aussi très bien dans l'accompagnement de la montée en puissance de l'extrême droite par les classes dominantes. On est dans des schémas combinés.
Comment la France exporte ces méthodes de surveillance, ces méthodes policières? Je me souviens de la ministre de l'Intérieur, Alliot-Marie, qui avait proposé d'envoyer des groupes de formation en Tunisie pour former la police tunisienne. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est?
Oui, enfin bon, elle disait ça, c'était pour faire un peu le buzz, parce que en fait, la police française accompagnait les forces de sécurité en Tunisie déjà depuis très longtemps, et en fait, dans toute la zone néocolonial, en tout cas dans toute la France-Afrique, la France a organisé historiquement depuis l'époque des indépendances et des restructurations néocoloniales, avait installé des réseaux qui justement permettent en permanence de former ou au moins d'informer les États sur les méthodologies, sur les matériels, sur les moyens que met en œuvre la police française et son armée aussi, et donc elle est capable de vendre. Et donc il y a différents réseaux. Par exemple, il y a des dans les ambassades, mais aussi il y a un réseau mondial qu'on appelait le SCTIP, le Service de Coopération Technique Internationale de Police, par exemple, qui est un réseau international de policiers placés un petit peu dans un très très grand nombre de pays à travers le monde, et qui sont là pour à la fois faire de l'information sur les matériels français, mais aussi de ramener de l'information en France sur ce qui se passe dans le pays et ce qu'il pourrait y avoir besoin en termes de technologie, etc., et de marché qui pourrait être passé. Donc ça se fait par ces réseaux-là, ça se fait à travers Interpol, espèce de réseau mondial de police. Ça se fait dans les grands salons de l'armement aussi. On a parlé de Milipol tout à l'heure. Milipol, c'est le salon mondial des technologies militaro-policières qui est organisé par la France au service des industries françaises, mais c'est le plus grand salon. Et les industriels et les gouvernements du monde entier et des militaires, des policiers, des agents secrets, des mercenaires, et des barbouzes du monde entier s'y croisent tous les deux ans à Paris. Et donc c'est une année sur deux à Paris, une année sur deux au Qatar. C'est aussi organisé là en collaboration entre la France et le Qatar. Il y a un équivalent en Colombie, il y a un équivalent aussi en Côte d'Ivoire, et tout ça est organisé par la France. Donc vraiment, la France est au cœur de ce réseau mondial d'expansion des technologies sécuritaires. Et voilà, elle y est même, on peut dire, en première ligne.
Radio Galère, émission spéciale contre les violences policières.
La décision qui est tombée vendredi dernier, ça a été une fois de plus un coup de poing dans notre gueule.
2015.
Ça a été un coup de bambou. J'ai eu l'avocat au téléphone vendredi dernier.
À propos de la mort d'Ali
Ziri. Qui venait de recevoir la décision de l'appel de la Cour de Rennes. Et l'erreur de voir un avocat entre la rage et les larmes. La décision de la Cour d'appel de Rennes a été de confirmer le non-lieu concernant la poursuite pour homicide involontaire à l'égard de X. Il s'agit en l'occurrence des trois policiers interpellateurs de M. Ali Ziri, âgé de 69 ans au moment des faits. On ne peut pas évoquer son nom sans rappeler un minimum de qui était ce monsieur. C'était un retraité algérien qui avait, comme nous le disait François Hollande il y a quelques jours, 3-4 jours, contribué, lui aussi à sa manière, à construire un logement sur deux en France. Contribué, lui aussi à sa manière, à construire 90% des autoroutes. Contribué, lui aussi à sa manière, en étant exploité, comme vous pouvez l'imaginer, en vivant dans une chambre de 8 mètres carrés, reclus, loin de sa famille, à souffrir, à donner sa force de travail pour pas grand-chose. Pas grand-chose, c'est pas vrai. Parce qu'en retour, ce monsieur-là, il est reparti en Algérie les pieds devant. Il était venu en Algérie à l'occasion d'une belle fête. Il voulait acheter quelques affaires parce que son fils, handicapé, moteur, devait se marier. Il va boire un coup avec un pote, plusieurs coups. Oui, on assume. Oui, 2 grammes d'alcool dans le sang. Et pourtant, toutes les expertises médicales prouvent, disent, témoignent que Ali Ziri n'est pas mort à cause d'un cœur trop fragile, à cause d'un excès d'alcool dans le sang, à cause de vomissements. Il est mort. C'est ce que disent 3 expertises sur 4, dont l'une, et pas des moindres, l'Institut médico-légal, en la personne du professeur Lecomte, qui est une sommité de l'expertise médicale. Tous disent, s'accordent à dire qu'il est mort par hypoxie, c'est-à-dire manque d'oxygène dans le sang. Une hypoxie qui est secondaire à une immobilisation, une asphyxie mécanique des poumons, pour reprendre les termes mêmes médicaux, qui elle-même est due à la technique d'immobilisation utilisée par les policiers. C'est ce que dira la dernière expertise, y compris. Eh bien, malgré ça, 3 juges d'instruction nommés sur l'affaire. Et quand un juge d'instruction décide d'aller au bout, eh bien, le bout pour cette justice en France, ça s'est traduit par un non-lieu la première fois. Le collectif et la famille ont fait appel. Cour d'appel de Versailles, confirmation du non-lieu, et avec des arguments qui font peur. Parce que ce que demandaient les avocats et la famille sont des choses très simples du point de vue de l'instruction. Ils demandaient que les policiers soient auditionnés par le juge, parce que c'est pas un non-lieu dans le sens où les flics n'y sont pour rien. C'est qu'en réalité, la justice ne s'est pas faite, n'a pas été entreprise, n'est même pas allée au bout, elle n'a même pas commencé un début d'instruction de quoi que ce soit. Les juges, aucun des juges n'a entendu les policiers. Les policiers ont été entendus uniquement par la police des polices. Je vous laisse réfléchir. Deuxièmement, les témoins de l'interpellation n'ont pas été entendus par le juge. Ils ont été entendus par la police des polices. Troisièmement, la caméra numéro 7, qui est la caméra située devant le commissariat de police d'Argenteuil, n'a pas été visionnée en présence des témoins, en présence des experts médicaux et en présence du juge. D'ailleurs, avec un argument qui fait peur. L'un des juges d'instruction de la Cour d'appel de Versailles de mémoire dit la chose suivante. Nous ne visionnerons pas la caméra numéro 7 parce que ça pourrait remettre en cause la sincérité des témoins, à savoir des policiers. Voilà, noir sur blanc, les raisons qui font que l'instruction n'a même pas commencé pour M. Alizéry. Concernant les expertises, il y a eu 4 groupes de médecins qui ont vu M. Alizéry. 3 sur les 4 s'accordent à dire qu'il y a une hypoxie, qu'il n'est pas dû, qu'il n'est pas mort à cause d'un cœur malade. La première qui s'est faite à la va-vite, seule elle, reprenant uniquement les conclusions des réanimateurs de l'hôpital, fait l'hypothèse qu'il avait peut-être une hypertrophie cardiaque, c'est-à-dire un gros cœur, et qui expliquerait la mort, c'est comme ces footballeurs sur les terrains de foot qui meurent subitement. Voilà l'état des lieux concernant les expertises médicales. Eh bien, on le dit très simplement, il n'y a pas en France une impunité policière. Il y a en France une impunité policière et une impunité judiciaire. On doit comprendre ici que ce n'est pas simplement une affaire de 3 flics qui font du zèle. C'est un problème d'ordre structurel, c'est un problème de société. Lorsque la justice vient couvrir la police et lorsque des gouvernements successifs, car cette histoire-là a commencé il y a 5 ans sous Sarkozy, elle se poursuit sous Hollande, sous le gouvernement Taubira, Valls, eh bien, lorsque les gouvernements successifs de droite comme de gauche couvrent une justice qui elle-même couvre la police, eh bien, on peut le dire de manière très posée, sans polémique à 2 balles. Aujourd'hui, quand on est issu des quartiers populaires, parce qu'on a un accent accroché sur le prénom, parce qu'on est noir, parce qu'on est arabe et parce qu'on est rom, eh bien, ta durée de vie n'est pas la même que celle des autres. Ta dignité n'est pas la même que celle des autres. Et on s'excuse du peu. On se doit de féliciter les camarades qui viennent des États-Unis parce qu'il y a un lien entre Ferguson et la France, parce qu'il y a un lien entre le fait de tuer des Noirs parce qu'ils sont Noirs et de pouvoir tuer dans toute l'impunité en France des gens et des jeunes et des moins jeunes issus des quartiers populaires.
Vous êtes à l'écoute de Radio Galère avec pas mal d'émotions à l'écoute de ce témoignage d'un proche d'Alizéry. Qui parle de cette affaire qui date de 2010, si je dis pas d'erreur, ou peut-être 2009 d'ailleurs. Ça fait écho à pas mal de choses, notamment le fait qu'Alizéry soit un retraité algérien. Aujourd'hui, on est 3 ans après la mort de Zineb. Dans quelques minutes commencera un rassemblement en hommage à sa mort, en hommage à Zineb, pardon. Évidemment, contre toutes les formes de violence policière ou d'État, et donc pour la vérité et la justice. Pour Zineb, pour la vérité et la justice, pour Souhel, pour la vérité et la justice, pour toutes les personnes qui ont été tuées par la police. Aujourd'hui, on parlera d'Alizéry, on parlera de Bouna Traoré, on parlera de Wissam El Yamni, on parlera de Zineb Redouane, d'Abdoulaye Camara, évidemment. Et on parlera de Souhel El Khalfaoui, pardon. Toutes ces personnes qui ont été tuées ces dernières années par la police et pour lesquelles on attend que la justice soit faite. En attendant, on va rejoindre la dernière partie de cette interview de Mathieu Rigouste qui parlait justement de colonialisme, de policiers, de néocolonialisme policier, de ségrégation dans les villes et de racisme d'État et de racisme policier. Et donc dans cette troisième partie, il va aborder grâce par le micro de Jean-Pierre Brindu de l'Agora. Il va aborder l'industrie de la surveillance, de la militarisation et de la police et de son éventuelle abolition de la police comme demandé aux États-Unis. On s'écoute ça tout de suite. Mathieu Rigouste au micro de Jean-Pierre Brindu, l'Agora.
Le développement des armes non létales flashball, taser, propulse aussi une véritable industrie privée de la coercition. Comment l'expansion du marché international de la violence encadre la diffusion des doctrines de la contre-insurrection et permet de les appliquer à l'intérieur des métropoles impériales?
Disons qu'on retrouve un peu cette configuration-là dans un certain nombre de sociétés impérialistes, notamment dans celle du premier rang, mais aussi dans celle de rang en dessous, comme l'est la France désormais, où en fait, disons que pour accompagner la restructuration néolibérale, en tout cas pour permettre de la mettre en place et pour l'encadrer, un certain nombre de ces sociétés-là ont fait le choix de la restructuration sécuritaire, c'est-à-dire d'investir à fond dans les domaines de la surveillance, du contrôle, de la répression, de la guerre dans la population. Et un petit peu comme disons le keynésianisme militaire avait tenté de sauver le capitalisme justement en investissant dans la guerre, on pourrait dire qu'il y a une sorte de keynésianisme sécuritaire, c'est-à-dire que les États et le capitalisme contemporain investissent à fond dans la surveillance, le contrôle, la répression pour se stabiliser, se rétablir, mais aussi pour faire remonter les taux de profit, enfin pour qui n'ont jamais été aussi hauts, notamment dans ces domaines-là, sur ces marchés-là, et avec une logique en particulier qui est assez intéressante pour tout ce système-là, c'est que en investissant dans tout ça, on participe aussi à produire de l'autocontrôle et à faire participer les dominés à leur domination. Donc voilà, un marché gigantesque de la surveillance, du contrôle et de la répression qui émerge vraiment dans les traces du marché de l'armement et dans l'après 68 et aux mains des grands industriels de l'armement. C'est-à-dire on avait un complexe militaro-industriel, il devient à ce moment-là petit à petit un complexe, on va dire militaro-sécuritaire. Et qui va vivre de plus en plus de la production de ce qu'ils appellent des armements intermédiaires, c'est-à-dire toute une série de matériels, de doctrines, de savoirs et de formes de pouvoir qui sont présentés comme étant, alors à des époques, on va dire non létaux, moins létaux, en tout cas qui tueraient moins, et qui, pour les légitimer, en tout cas, on nous raconte que ça viendrait prendre la place des matériels qui tuent, et que du coup, ce serait un progrès démocratique, etc. Et en fait, on voit très bien à l'usage, mais bon, on s'en doutait depuis le début, que tous ces matériels et toutes ces technologies en fait ne remplacent pas du tout les technologies mortelles, mais plutôt s'ajoutent et du coup viennent articuler aux mécaniques de mise à mort, des mécaniques de coercition, de mutilation, et qui vont à la fois pouvoir être déployés au quotidien, par exemple sur les quartiers populaires ou dans les prisons ou tout au long de la politique des frontières, si on voit l'usage des gaz et des flashballs, des lanceurs de balles de défense, des grenades de désencerclement, etc. Tout ça est utilisé au quotidien dans ces domaines-là. Et puis, vont être utilisés aussi dans le cadre des autres mouvements sociaux lorsque ces mouvements sociaux s'organisent pour se rendre offensifs, en tout cas quand ils deviennent ingérables simplement avec de l'idéologie et du divertissement. Tout ça est à la fois une garantie pour les classes dominantes de se protéger, d'empêcher les gens d'arriver jusqu'à l'Élysée, etc. C'est pas juste une métaphore, on s'en rappelle, mais c'est aussi un marché gigantesque et le business de la sécurité pour la France, mais en fait pour la plupart des sociétés qui ont un petit peu le même type de configuration, des grandes puissances impérialistes, c'est devenu des marchés fondamentaux. Si on regarde le capitalisme, l'industrie des technologies sécuritaires en Israël, c'est complètement combiné avec l'occupation de la Palestine et avec la possibilité de déployer ces armements et de les mettre en vitrine. Mais on retrouve le même mécanisme aux États-Unis avec les ghettos, au Brésil avec les favelas, etc.
Donc on peut dire que la police est au service du marché et de l'économie néolibérale.
Oui, complètement. Après, je dirais de toutes les institutions, en vérité, les dominants, les classes dominantes mettent pas en place des choses qui iraient à l'encontre du capitalisme, du système économique qui leur dont ils tirent profit. Et la police, mais l'éducation nationale aussi, la prison, le système judiciaire, le système de santé, tout est organisé pour le marché capitaliste.
Donc on vient de voir comment la domination populaire est devenue une violence industrielle, ou en tous les cas facilite ces violences industrielles, et on ne pourra pas se priver de parler de la loi sécurité globale et loi séparatisme. Comment comprendre et comment combattre l'offensive sécuritaire du gouvernement?
La loi sécurité globale et la loi sur le séparatisme ont été articulées depuis le début. Elles étaient conçues d'une certaine manière. Elles étaient conçues ensemble et elles ont été déroulées ensemble. Et en fait, ça ressemble un petit peu à toute l'histoire du système sécuritaire qui, lui aussi, a été mis en place en s'appuyant en permanence sur aussi des politiques identitaires, sur des lois racistes, sur des dynamiques de ségrégation, de discrimination, et que les deux fonctionnent ensemble. C'est-à-dire que aussi bien la transformation sécuritaire, l'augmentation des moyens de la surveillance, de la répression, toutes ces choses-là ne se font jamais de la même manière sur toutes les catégories de la population, et elles sont toujours d'abord mises en pratique contre les plus dominés, contre ceux qui sont à la fois dominés et exploités, et puis élargis, et du coup elles participent aussi toujours à la reproduction de cette ségrégation et de cette discrimination. Et j'ai l'impression que ça implique aussi directement la manière dont on peut lutter contre ça. Enfin, j'ai l'impression que de toute façon, même d'un point de vue simplement de la question de la justice sociale, en fait, on peut absolument pas lutter contre cette société sans construire des solidarités avec tous les dominés, avec tous les exploités. Ça, c'est une base. Après, d'un point de vue technique, en plus, je pense qu'on n'y arriverait pas de toute façon, justement parce que le sécuritaire tient sur l'identitaire, l'identitaire tient sur le sécuritaire. Ces choses-là fonctionnent complètement ensemble, et puis de toute façon, si on veut construire une autre société, il faut bien qu'on le fasse entre dominés, entre exploités, entre opprimés. Ça veut dire trouver des moyens de comprendre comment chaque groupe social, chaque strate vit au quotidien, subit, c'est quoi ses conditions matérielles d'existence, et puis comment on peut trouver des manières de faire ensemble, de se donner de la force, de s'entraider et de créer aussi d'autres rapports sociaux.
Tout à fait récemment, Gérard Darmanin, ministre de l'Intérieur, était présent à Marseille. Il a proposé, voire imposé à nos nouvelles municipalités d'installer 500 nouvelles caméras. Et donc on voit que l'État se mêle de la sécurité dans les villes alors que ça n'est pas du tout de sa compétence. Mmh.
Oui, et en même temps, c'est vraiment pas nouveau. Enfin, l'État a complètement accompagné toutes les politiques municipales en termes de vidéosurveillance, mais même en termes de transformation sécuritaire de la ville. C'est quelque chose qui est complètement structuré au niveau étatique. Il y a une collaboration historique, et encore une fois, ça revient depuis le début des années 70, entre le ministère de l'Intérieur notamment, mais pas seulement, le budget aussi, et les grands industriels de la défense et de la sécurité, et qui en fait se voient toute l'année à travers des séries de conférences, de séminaires, dans des instituts, par exemple comme l'IHEMI, l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur, et dans son versant plutôt défense nationale, qui est l'IHEDN, l'Institut des hautes études de défense nationale, dans des grands salons comme le salon Millipol, le salon mondial de la sécurité intérieure des États. Ça s'est organisé par l'État français avec directement en collaboration avec les industriels de la défense et de la sécurité. Et dans tous ces espaces-là, en fait, l'État et les industriels collaborent en permanence à réfléchir à des nouvelles manières de contrôler, surveiller, tenir les classes populaires. Bon, eux disent la population, mais bien entendu, c'est pas n'importe quelle population. Conçoivent ensemble ce que l'État et ce dont enfin, ce que recherche l'État, ce qu'il est prêt à mettre en place, ce qu'il est prêt à financer, et puis de l'autre côté, pour les industriels, réussir à répondre à ces attentes de l'État tout en tirant le maximum de profit. Et du coup, c'est vraiment une machinerie complètement qui est huilée depuis longtemps, qui fonctionne en permanence toute l'année de conception, de réalisation et de généralisation de technologies sécuritaires. Voilà, complètement accompagné par l'État et les industries qui travaillent ensemble à cette dynamique-là.
À la suite du lancement par la Russie d'une fusée permettant de détruire des satellites, s'est posé la question de l'utilité de l'arme atomique, alors qu'on voit bien qu'aujourd'hui, la puissance d'une nation n'est plus seulement la dissuasion avec la possession de moyens de destruction atomique, mais aussi d'autres moyens de montrer sa force et sa puissance. Donc, j'imagine que pour la sécurité intérieure d'un État, les mêmes bouleversements vont s'opérer. Et donc, j'en viens à cette question vraisemblablement embarrassante. C'est à quoi va ressembler la police du futur ?
Bah, ça dépend ce qu'on fait, nous aussi. C'est-à-dire que si on faisait rien, c'est peu probable qu'il arrive. Il y a une logique de technologisation profonde, constante, comme on vient de se le dire. L'État et les classes dominantes et les industriels font tout pour technologiser à fond, c'est-à-dire créer des nouveaux marchés et puis les généraliser. Tout ça est complètement lié aussi avec l'extension du numérique à tous les étages, du numérique et du biométrique. Donc voilà, des formes de robotisation, de contrôle par l'intelligence artificielle, des corps, des objets, des peuples, et puis même avec un fantasme de prévision. Voilà, ça c'est la fiction sécuritaire, c'est ce qui est dans les valises, enfin c'est ce qui est dans les c'est ce qui en conception, c'est ce qu'ils aimeraient bien mettre en place. De toute façon, tout ça est toujours confronté d'abord à des contradictions institutionnelles et aussi ensuite à des résistances populaires. Donc c'est jamais mis en pratique de la manière dont ça a été conçu et fantasmé par les classes dominantes. Et donc, on ne sait pas ce que sera la police du futur, mais il se pourrait aussi, comme on le voit aux États-Unis, qu'un mouvement, que les résistances face aux violences d'État, et d'ailleurs c'est le cas, hein, c'est ce qui est en train de se construire en France, s'approprient la question de l'abolition de la police. Moi, j'ai du mal à croire qu'on réussisse à abolir la police sans changer complètement de société, parce que l'État et le capitalisme reposent sur la possibilité de contrôler, de réprimer les révoltes et les mouvements révolutionnaires. Mais en tout cas, il n'est pas interdit de penser que les opprimés du monde entier réussissent à s'organiser justement pour changer complètement de société et pour se débarrasser de la police, de la prison, de toute la chaîne punitive en créant une autre société. Donc peut-être que l'avenir de la police, ça pourrait être aussi qu'on s'en débarrasse.
Bel espoir. Un sociologue marseillais qui dirige un laboratoire travaillant particulièrement, précisément sur la sécurité, indique lui qu'en fait, il y a beaucoup moins d'insécurité aujourd'hui qu'il n'y en avait au Moyen-Âge. Et malgré ça, les moyens sécuritaires ont largement augmenté.
Ouais, bah en plus, bon, ça suppose aussi de se dire de quelle insécurité on parle, parce qu'en plus, quand eux nous parlent d'insécurité, en général, ils ne parlent pas tellement de toute une série d'insécurités, de la précarité, des violences machistes, des violences racistes, de ce qu'on pourrait considérer comme des formes d'insécurité. Il s'agit en permanence de désigner des barbares parmi les classes populaires. Et oui, mais ça, je pense qu'on peut poser clairement sur la table le fait que tout ça, l'État et les classes dominantes en ont rien à faire des conditions d'existence, d'améliorer ou des conditions d'existence des classes dominées, et que c'est surtout le langage autour de l'insécurité, c'est un langage de légitimation pour déployer ces marchés gigantesques qui sont des grandes sources de profit et puis aussi qui permettent de donner plus de force et de pouvoir aux classes dominantes dans une époque où le néolibéralisme multiplie les crises qu'il engendre lui-même, mais où les crises dans la crise ne cessent de se succéder et tout est écrit pour nous assurer que les révoltes sociales vont continuer, se multiplier, se renforcer. On peut pas en même temps piller la planète et écraser les peuples du monde sans qu'il y ait une multiplication continue des résistances et des révoltes, et ça les classes dominantes le savent très bien.
Nous arrivons au terme de cet entretien, il vous reste les mots de la fin.
Les mots de la fin, c'est de, je pense, c'est de pas tomber dans le piège des fictions sécuritaires, de pas croire ce que nous disent les dominants quand ils fantasment leur toute-puissance. Que les technologies sécuritaires, mais comme les formes de pouvoir, elles sont jamais aussi totales que les dominants le voudraient. Elles sont toujours, il y a toujours des interstices, il y a toujours des espaces à l'intérieur des rouages dans lesquels on peut venir glisser des grains de sable. C'est aussi pour comprendre, essayer de mieux connaître la société face à laquelle on, à laquelle on fait face. Ça veut dire des formes d'enquête populaire, collective, pour savoir comment fonctionnent les rapports de domination, où est-ce que justement on peut trouver des interstices. Et puis que dans toute cette histoire-là, il y a en permanence une créativité du côté des dominés, une capacité à trouver des moyens de s'entraider, de créer des nouvelles formes de solidarité, des nouvelles formes de résistance, et que on a, je pense aussi absolument intérêt à cultiver dans nos pratiques d'éducation populaire des histoires de victoire, parce que il y a très rarement des grandes victoires, mais il y a assez régulièrement des petites victoires. Et voilà, on trouve régulièrement des moyens de s'opposer, des moyens de s'unir. Il y a un enjeu fondamental à ce qu'on cultive ça, parce que du coup, on est capable de s'organiser.
Grand merci, Mathieu Rigouste, d'avoir participé à cet entretien.
Et puis, merci.
À bientôt à Marseille.
Ça marche. À très bientôt.
Personne n'a le remède de la mort. Personne n'a le remède de la mort. Mais pour l'instant, ces policiers là-bas, ils sont tranquilles. Eux, ils rentrent chez eux. Ils voient leurs femmes et leurs enfants. Les policiers continuent dans nos quartiers, ils nous insultent. Ils essayent de nous pousser à qu'on fasse des outrages. Mais on a compris ça, on leur donne plus le temps. La police aujourd'hui se permet de tuer.
Ce samedi 4 novembre, rendez-vous à 16h au Vieux-Port pour une manifestation en hommage à Zineb Redouane, 3 ans après sa mort. Et dès 14h, sur les ondes de Radio Galère et Ayoli Radio à Avignon, pour un après-midi spécial sur le thème des violences policières, des violences d'État, et en hommage à Zineb et Souheil. C'est samedi à partir de 14h sur les ondes de Radio Galère.